bonsoir à tous. La démission du Premier ministre ne fait que renforcer l'instabilité politique. Les réactions recueillies témoignent de la consternation et de l'inquiétude pour la suite des événements. Hasard du calendrier ou pas, l'Université citoyenne de Thouars propose une conférence sur le thème des intelligences au pluriel demain soir. Les initiatives, elles sont très nombreuses pour le mois de sensibilisation à Octobre Rose. Les joueurs du CO Cerizet, comme d'autres d'ailleurs, arborent un maillot rose. Et puis dans l'actualité sportive, on vous parle de Sophie Stenoux, la quadragénaire niortaise, a encore remporté une course ce week-end.
La météo à l'issue du journal, du beau temps également pour demain.
Coup de théâtre donc ce matin avec la démission de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre avait mis quasiment un mois à composer son gouvernement, annoncé hier soir en partie seulement avec la plupart des ministres sortant du gouvernement Bayrou. Aussitôt, les critiques ont fusé, au motif notamment qu'on était loin de la rupture promise. La situation politique est inédite et il semble difficile de sortir de l'impasse. Écoutez le politologue Dominique Breillat.
Il faudrait que chacun finisse par changer un peu son attitude politique. Le gros problème, c'est que si il y avait dissolution, cette dissolution, on peut penser qu'elle ne donnerait pas aucune majorité absolue. Et on se retrouverait à nouveau dans une impasse, puisque lorsqu'il y a eu une dissolution, il ne peut pas y avoir de nouvelles élections avant un délai d'un an. Et là, l'objectif pour chacun des partis politiques, c'est 2027, l'élection présidentielle. Alors certains disent, il faudrait l'avancer par le fait que le président de la République démissionne. Je ne crois pas que ce soit une bonne solution que de jouer avec la durée des mandats présidentiels, parce que on créerait un dangereux précédent.
Les réactions, évidemment, se sont multipliées depuis l'annonce ce matin de la démission du Premier ministre Lecornu. C'est consternant, commente le député Bastien Marchive. Depuis la dissolution, nous assistons à un spectacle affligeant et sans précédent dans la Ve République. Le député de Sévrien appelle, je le cite, à dépasser les clivages partisans.
On ne peut pas rester dans cette situation, laisser les Français, nos entreprises, nos associations, nos collectivités dans l'inconnu. C'est absolument irresponsable. Tous ceux qui jouent le jeu des intérêts partisans et qui pensent à l'élection présidentielle sont en train de mettre le pays dans une situation absolument catastrophique. Ils en portent la responsabilité. Et donc je continue à porter ce message qui est de dire non, la surenchère dans l'instabilité n'est pas la solution. Et oui, nous devons nous mettre autour d'une table pour avancer ensemble.
Sébastien Lecornu était souvent présenté comme étant la dernière carte d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire que le président n'a vraiment plus la main ?
Mais ça fait un an que le président n'a plus la main. Dans les démocraties modernes, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est l'Assemblée nationale et les différents groupes politiques qui se rassemblent, qui passent un accord pour aboutir à la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement en mesure de représenter et tenir compte de cet accord. Et ensuite, le président en prend acte pour nommer quelqu'un. Quand le président nomme immédiatement un Premier ministre, on prend les choses un petit peu à l'envers. Il est temps que notre démocratie mûrisse. On a réussi à le faire par le passé. C'est vrai que c'est pas là l'esprit de la Ve République, que nos institutions ne correspondent pas véritablement à ce fonctionnement. Mais d'autres pays y parviennent. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas.
Bastien Marchive pour Philippe Mouiller. La séquence induite par la dissolution de 2024 est dévastatrice pour la France. Pour le sénateur, il ne reste plus beaucoup de solutions.
Je crois qu'il n'y en a pas 36. Il y en a une, mais je n'imagine même pas trouver un Premier ministre qui de nouveau construirait un gouvernement avec dialogue, discussion entre les acteurs. Ça, c'est une notion. Mais je pense qu'elle a très peu de chances d'arriver. La deuxième, c'est la dissolution avec un retour aux urnes. Mais je veux dire, la France n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On est dans une situation financière qui n'est pas bonne. La situation internationale est inquiétante. Et que, voilà, on a d'autres priorités. Et que l'intérêt général devrait être l'élément qui fédère l'ensemble des élus et des grands élus. Voilà, mais je vois que ces deux options, certains évoquent la démission de Macron, mais ça, je crois pas, mais je pense qu'aujourd'hui, vraisemblablement, soit il y a un nouveau gouvernement, mais vraisemblablement plutôt une dissolution.
Et si la dissolution aboutit à nouveau à trois blocs, comme nous le faisait remarquer le politologue Dominique Braillard, on sera à nouveau dans la passe et pour un an.
On peut imaginer quand même que les partis politiques en tireront les enseignements.
Comment qualifier les invraisemblables séquences politiques nationales auxquelles nous assistons depuis la dissolution irraisonnée d'Emmanuel Macron, écrit de son côté Alain Rousset, avant de poursuivre pour le président de région. Je suis dépité Face au temps perdu, inquiet face à l'accroissement du sentiment antidémocratique, effaré face à tant d'incompétences, et si ce nouvel épisode n'augure rien de bon pour notre pays en ces temps géopolitiques et économiques si instables, il n'a rien d'étonnant à ignorer le résultat des urnes, à mépriser les corps intermédiaires, à rester sourd au ras-le-bol. Le président de la République et ses proches récolte ce qu'il sème, fin de citation.
L'intelligence aux multiples facettes sous le regard des Touaresais.
C'est la reprise du cycle des conférences gratuites proposées par l'Université citoyenne de Thouars. Elle profite de la fête de la science pour inviter ce mardi à 7 octobre à 20h30 à la station T le scientifique Christian Philibert sur le thème des intelligences au pluriel. Au fait, comment caractériser l'intelligence? Écoutez la réponse du spécialiste en neurosciences au micro Colline de Dominique Hérault.
Il y a eu une rupture très tôt dans l'humanité entre nature et culture. Ce qui est humain est rangé sous le terme de culture, et dedans on se dit, ça c'est des gens intelligents. Et puis ce qui est de l'ordre de la nature, ce monde-là, ne relève pas de l'intelligence. Et on dit les animaux ils sont malins. Mais non, ils sont pas malins, ils sont intelligents. On a imaginé un QI qui mesure sans doute une forme d'intelligence ou des capacités cognitives d'intelligence, notamment celles qui vont servir principalement à la réussite scolaire. Mais l'intelligence, c'est bien autre chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi une intelligence des émotions, il y a une intelligence du geste, il y a une intelligence de la main. Et puis, les animaux sont intelligents, manifestement, puisqu'ils sont capables, pour certains, d'anticiper ce que va faire l'autre, le prédateur, etc. Et donc, ça veut dire qu'il y a forcément une forme de pensée, et donc une forme cognitive, et donc une forme d'intelligence.
L'homme d'aujourd'hui accepte de considérer qu'il existe d'autres formes d'intelligence non humaine, d'autant que surgit l'intelligence numérique, celle de la machine, qui peut lui damer le pion artificiellement.
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle consiste à imiter puis à dépasser, pour les gens de la Silicon Valley, de dépasser l'intelligence humaine. Mais elle est copiée d'abord sur l'intelligence humaine. L'univers numérique, c'est d'avoir des data tellement importants que ces data retrouvent plus facilement dans leur mémoire les données. Et donc, du coup, ils apparaissent comme étant plus puissants.
Mais pas totalement infaillible, même si on est tenté de faire une confiance aveugle à la machine. Suite, mais pas fin du questionnement, sans doute ce mardi à 7 octobre à 20h30 à la station T de Thouars. Le thème de l'intelligence reviendra le 13 janvier, un sujet quasiment inépuisable. Reportage de Dominique Hérault. L'hôpital Nord de Sèvres apportera davantage de précisions lundi prochain lors d'un point presse. Mais sachez que l'antenne du SMUR a rouvert aujourd'hui à l'hôpital de Parthenay. Les urgences sont toutefois toujours orientées vers le centre hospitalier de Fellabès. L'antenne du SMUR doit fonctionner 24 heures sur 24 grâce à des effectifs médicaux et paramédicaux avec médecins, infirmiers, aides-soignants et ambulanciers.
Le COC Foot habille ses joueurs en rose.
À l'occasion du mois octobre rose dédié à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein, le club renouvelle son soutien à Cerisé en rose, initié il y a 4 ans par Arthur Poincé, joueur du club. Cette année, un palier supplémentaire a été franchi, en effet, en partenariat avec l'agence 71 de Moléon. Un jeu de maillot spécial cerisé en rose a été dévoilé en fin de semaine dernière à l'ensemble des joueurs, dirigeants, bénévoles et supporters du COC. Maillots qui seront portés à chaque rencontre à domicile durant ce mois d'octobre. Béatrice Brossard de l'agence 71, par ailleurs membre du conseil d'administration du COC Foot, au micro de Jean Grelier.
La genèse du projet, c'est ça, c'est un échange avec Arthur qui avait déjà eu cette idée il y a quelques années. Je travaillais à l'agence 71, étant partenaire de Cerise en Rose et du COC Foot. En fait, on a décidé cette année de lier un peu les deux et donc d'être partenaire en créant, finalement, en proposant de créer un maillot qui serait porté par toutes les équipes du COC. Tout au long du mois d'octobre, sur les matchs à domicile, on va essayer aussi que les féminines puissent le porter pour que voilà, l'ensemble des équipes honore ce maillot tout au long du mois d'octobre.
Et puis l'innovation, c'est cette vente aux enchères qui se déroulera donc le dimanche 26 octobre.
Donc 26 octobre, effectivement, à l'issue de l'édition, en fait, je pense que ce sera aux alentours de 14h. On va lancer une vente aux enchères, effectivement, à l'issue de l'édition. Et tous les fonds récoltés, en fait, seront reversés à Cerise en Rose, qui ensuite reversera la Ligue contre le cancer. On va fixer une mise de départ. Et celui qui misera le plus, finalement, remportera le maillot. Maillot par maillot. Maillot qui pourront éventuellement être signés par les joueurs qui les portent tout au long de l'année.
Et ces maillots seront donc vendus aux enchères lors de Cerisé en rose dont la quatrième édition se déroulera le dimanche 26 octobre.
En course à pied, les foulées du Port Boisneau ont réuni samedi 650 participants.
Sur 5 et 10 kilomètres, sur le 10 chez les femmes, c'est Sophie Stenou qui s'est montrée la plus rapide en 40 minutes et 11 secondes. C'est la deuxième fois que la licenciée Sharon Ignore remporte l'épreuve après un premier succès en 2023 à 47 ans. Sophie Stenou est en pleine forme et répond dans un grand sourire aux questions de Grégory Diguet.
Je suis contente parce que c'est à domicile, donc c'est sympa, ça reprend bien la rentrée. Et c'est organisé par mon premier club, donc il y a toujours un peu d'émotion. Et puis je suis contente parce que finalement, j'ai réussi à rentrer dans mes objectifs. Il y avait beaucoup de vent, donc pas facile, mais c'était bien. C'est le vent après, on se bat tous contre le vent.
Et malgré toutes les courses que tu as faites et gagnées, tu dis c'est toujours stressant quand même.
Ah oui, j'arrive jamais à m'habituer. J'ai toujours le stress de savoir qui est là, de la météo, le cardio. On sait jamais comment on va être sur la course. Et donc voilà, on se met toujours une petite pression.
Sophie Stenou a une certaine expérience, mais a commencé la course à pied sur le tard à 32 ans après une grossesse.
Je me lasse pas, en fait, j'aime bien. Je trouve qu'il y a une super ambiance dans la course à pied. C'est ça qui me fait continuer. Et on a un club formidable, donc ça motive. Et j'ai commencé dans un Niort Endurance, c'était plus loisir. Et quand j'ai voulu performer davantage, j'ai trouvé Running Niort qui remplit toutes les missions. Et franchement, c'est chouette. Il y en a pour tout le monde parce qu'il y a des niveaux différents. Le club grandit, il y a une bonne émulation. Et on est bien accompagné. Je trouve c'est chouette.
Donc, t'étais pas sportive avant d'être maman ?
Si, j'ai fait beaucoup de danse classique, beaucoup de natation. Et la natation, ça demandait trop de temps en fait, parce que le temps d'y aller, le temps de nager, se doucher, rentrer, il faut 2 heures. Et c'est comme ça que j'ai commencé la course à pied, parce qu'en 1 heure, on peut faire une bonne séance.
La Niortaise Sophie Stenou qui se projette maintenant pour la suite de sa saison et ça va venir vite sur l'Équidène et la Coulée Verte. En basket, la DNCG a publié cet après-midi les budgets des clubs pour la saison 2025-2026. Cholet Basket reste au 8e rang avec un budget qui évolue de 1% depuis la saison dernière pour se situer à 6 460 000 euros. La masse salariale correspond à 25% de ce budget.
On parle travaux, Fabien, avant la météo.
À partir de ce lundi, le département des Deux-Sèvres réalise des travaux de rénovation de la chaussée sur l'avenue de Gaulle à Niort. Travaux qui s'étendront de la route d'Effre à l'avenue Saint-Jean-d'Angély. Ils intégreront également les bretelles d'accès à la rue de Goise. Les interventions seront réalisées de nuit, de 20h à 7h du matin jusqu'au 15 octobre. Et puis à Noailles-les-Aubiers, la seconde phase de travaux rue de l'Atlantique a été lancée aujourd'hui et devrait se poursuivre jusqu'en février 2026. Pendant la durée des travaux, la rue sera fermée à la circulation, sauf les riverains et véhicules autorisés. Les déviations mises en place pour la première phase seront de nouveau installées. Ces aménagements visent à sécuriser cet axe routier majeur de Noailles-les-Aubiers. Ils permettront la réfection de la chaussée et la création d'une liaison douce sécurisée afin de favoriser les déplacements à vélo et à pied.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Ça tombe bien, en ce moment il fait beau pour se balader à vélo et à pied.
Exactement, et avec le soleil qui devrait voir toutefois quelques nuages élevés le venir perturber légèrement demain, mais sans grandes conséquences. 9-10 degrés demain matin, 20 à 22 l'après-midi. Et ce beau temps nous accompagne en fait toute la semaine, David.
Merci beaucoup Fabien, voilà pour toute l'info près de chez vous ce lundi. Elle revient désormais demain matin.
Demain matin, 7h02 avec Patrice Bémanangy. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.